Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Élection du 267e pape. Les questions tournent autour de ce processus dans les milieux religieux catholiques et à travers le monde. En début de ce journal, quelques précisions sur le déroulement de la désignation du souverain pontife, processus qui se tient ce mercredi depuis le Vatican. L'Assemblée provinciale du Maniema marque le pas. Son président est mis à la touche, comme presque à l'accoutumée dans ses institutions en province. Gestion opaque des finances, incompétence, spoliation des biens publics, ce sont les accusations que ses pairs portent contre lui. Vous en savez plus dans cette édition. Docteur Jean-Pierre Sumba, médecin chargé de la maladie dans la province du Kassai oriental, donne des orientations et stratégies dans le cadre de la lutte contre la rougeole. Sa province n'est pas listée parmi celles où l'on enregistre d'épidémie des rougeoles, du moins pour ce qui est de l'an dernier. Il est invité de ce journal. À présent, place à cette randonnée informative dans les différentes villes de la RTC. Le tout, c'est sur Radio Okapi à travers ses multiples canaux de transmission de l'actualité du pays. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir. Les feux de l'actualité sont toujours tournés vers le Vatican où se déroule le vote du 267e pape. Tous dehors. C'est par cette formule que les cardinaux électeurs sont officiellement entrés en conclave. Bien avant, les cardinaux ont prêté serment et ont promis de respecter le secret absolu du conclave. Au moins 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans sont réunis à huis clos dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape 17 jours après la mort du pape François. Une messe pour cette élection du souverain pontife a été présidée ce mercredi dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal Giovanni Battista Re et co-célébrée par les cardinaux dont les 133 électeurs. D'autres détails avec vous, Blaise Macassinandès.
Dans son homélie, le cardinal Ré a invité à prier pour que l'Esprit-Saint donne à l'Église un nouveau pape selon les cœurs de Dieu, un pape dont l'Église et l'humanité ont besoin en ces tournants si difficiles et si complexes de l'histoire, un pape qui saura de mieux réveiller les consciences de tous ainsi que les énergies morales et spirituelles dans la société actuelle caractérisée par des grands progrès technologiques mais aussi à oublier Dieu. Alors que les cardinaux électeurs se préparent à un acte de la plus haute responsabilité humaine et ecclésiale, il les a appelés à mieux poser cet acte humain pour lequel toute considération personnelle doit être abandonnée en n'ayant que le bien de l'Église et de l'humanité dans l'esprit et dans le cœur. En ce qui concerne les préparatifs, tout est déjà en ordre. Une centaine d'officiels et des membres du personnel du conclave, ecclésiastiques et laïcs, ont prêté le serment du secret. Dans la chambre des larmes de la chapelle Sixtine, tout est fin prêt pour habiller le nouveau souverain pontife. C'est en effet dans cet espace que le nouvel évêque de Rome portera pour la première fois la soutane papale avant d'être présenté au public.
Mais cette interrogation, qui élise le pape? En tout cas, ils sont 133, ces cardinaux électeurs appelés à choisir le 267e pontife romain dans la chapelle Sixtine. Parmi eux figurent le cardinal Fridolin Mbongo de la RDC et l'archevêque de Kinshasa. Qui sont ces cardinaux et quels sont les critères pris en compte pour être cardinal électeur? Les explications dans ce papier de Blaise Mekassi rendu par Jean-Gandouka Bongo.
Le canon 349 du Code de droit canonique précise que les cardinaux constituent un collège particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du souverain pontife. La constitution apostolique établit que le droit d'élire le pontife romain appartient uniquement aux cardinaux de la Sainte Église romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du souverain pontife ou avant le jour où le siège apostolique est devenu vacant, ont déjà 80 ans accomplis, distinguant ainsi les cardinaux électeurs et non électeurs. À ce jour, le collège des cardinaux compte 252 cardinaux avec 135 électeurs dont deux ne participeront pas au conclave pour des raisons de santé et 117 non-électeurs. Pour l'élection du souverain pontife, il faut au moins deux tiers de voix. Dans le cas précis de ce conclave qui débute ce mercredi 7 mai, indique le Vatican, 89 seront nécessaires pour élire le pape, le nombre des cardinaux électeurs étant de 133. Ils sont 52 cardinaux d'Europe, 37 d'Amérique, 23 d'Asie, 17 d'Afrique et 4 d'Océanie qui se réuniront en conclave. Ils n'auront aucun contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas d'internet, jusqu'au jour où le nom du nouveau pape sera connu.
À actualité politique. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema vient d'être déchu de ses fonctions. C'était au cours de la plénière aujourd'hui, mercredi 7 mai. Au total, 18 députés sur les 19 que compte cet organe délibérant ont voté pour la déchéance du président Makonga Toboka Iki Claude. Il est accusé de spoliation des biens de l'État, de gestion opaque des finances de l'Assemblée provinciale du Maniema, d'incompétence aussi. On écoute à ce sujet le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, Papi Omeonga Chopa, au micro de Florence Kiza.
On venait de voter la pétition. C'est 19 députés qui étaient présents dans la salle. Il y a 18 qui ont voté pour et un seul contre. Et l'office, on a trouvé que notre président honorable Makonga Toboka Iki Claude Foreman est déjà déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Il y avait plusieurs griefs, mais on peut retenir quelques griefs, notamment l'opacité dans la gestion financière, spoliation de maisons et de terrains de l'État. Il a engagé beaucoup plus de gens que prévu par rapport à notre cadre organisé. Mais il y a les pétitionnaires, les signataires de la pétition, ils ont déjà déposé une demande de poursuite judiciaire à la compte de l'honorable président. La semaine prochaine, pratiquement, on aura déjà comblé le vide. Vraiment, dans une semaine, on aura un autre président de l'Assemblée provinciale. On avait trouvé quand même qu'il y avait beaucoup plus de problèmes. C'est pour cela que les députés sont décidés pour remettre de l'ordre. Les mandats passés, on avait pratiquement tout perdu. Mais cette fois-ci, avec le gouverneur qui est là, on cherche quand même à avoir quelqu'un qui va nous permettre de conduire cette population jusqu'à obtenir quelque chose. Au lieu de guerres inutiles, mais nous sommes là vraiment pour que nous puissions laisser des traces pendant les 5 ans à venir ici.
En guise de rappel, revenons à ce sujet sur la position du gouvernement et du chef de l'État. Le gouvernement de la RDC s'insurge contre l'instabilité des institutions à travers la déchéance des présidents des assemblées provinciales. Dans une correspondance officielle adressée au président des assemblées provinciales et au gouverneur de province, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières rappelle les instructions faites par le président de la République lors de la 11e session ordinaire des gouverneurs tenue à Calémie en novembre 2024. Le chef de l'État a mis un accent en particulier sur la stabilité des institutions provinciales. Des explications avec Esther Ndalafina Kapinga.
Cette correspondance signée le 6 mai 2025 par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a pour objet la stabilité des institutions provinciales. Elle s'adresse aux animateurs des institutions provinciales et aux députés provinciaux. Germain Chabani affirme qu'il s'observe sans peine que certaines assemblées provinciales fonctionnent dans une instabilité liée à la déchéance de leur président. Il demande aux animateurs des institutions provinciales d'éviter les querelles de pouvoir et de privilégier l'intérêt général, gage du développement intégral. Toujours dans la même correspondance, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur leur rappellent les recommandations formulées par le président de la République qui consistent à préserver la stabilité des institutions en cette période de guerre à l'est du pays. C'était lors de la 11e session ordinaire de la conférence des gouverneurs tenue à Calémie en novembre dernier. Pas plus tard que lundi dernier, le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Omami a été éjecté de son fauteuil après une bagarre le week-end dernier avec le rapporteur. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
L'actualité est multiple et diversifiée. À présent, il est 18h08 à Kinshasa et 19h08 à Ituri. Radio Okapi vous amène dans cette province pour parler de ces combats qui ont repris ce mercredi matin entre les FRDC et le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga, vers la localité lacustre de Café. C'est à plus de 70 km au sud de Bounia, dans le territoire des Djougou. Ces miliciens tentent de reprendre le contrôle de la localité de Nyamamba, à 7 km de la ligne de front, d'où ils ont été délogés dimanche par l'armée, indiquent des sources sécuritaires. Le bilan de ces affrontements n'est pas connu. L'activisme de ce groupe armé empêche le retour des nombreux déplacés dans les différents camps de pêche. Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a reçu en audience mardi le caucus des députés de la province de l'Ituri. Ils ont évalué la situation sécuritaire de leur province. Ces élus ituriens ont profité de cette opportunité pour saluer le travail de l'état-major général des FRDC ayant débouché à la calmie observée depuis un moment dans cette partie du pays. Explication avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de cet échange de quelques heures, ces élus ont mis en relief la rencontre entre les chefs d'état-major général adjoint chargé des opérations et des autorités de l'armée ougandaise, ainsi que les efforts menés dans les processus de la réserve armée de la défense RAD. Ce caucus des députés, conduit par son président Pitou Mbodina, a soumis une requête auprès du patron de la défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, pour l'accélération par les canaux de l'état-major général de l'opérationnalisation de la RAD. Ces élus ont également appelé au renforcement des effectifs des FARDC qui sont à Niamamba en vue de barrer la route aux incursions des rebelles des ADF, comme explique les députés Pitou Mbodina.
Nous aurons bien aimé que l'état-major général puisse réactionner l'opérationnalisation du processus de la RAD, parce que c'est un moyen aussi d'utiliser ces jeunes gens qui sont en désœuvrement.
Pour sa part, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a promis aux élus de l'Ituri de mettre les bouchées doubles afin que leurs recommandations puissent être suivies d'action. Guy Kabombo Modianvita a en outre salué l'implication de ses élus pour la restauration d'une paix durable dans la province de l'Ituri.
La RDC fait en ce moment des fortes précipitations à travers diverses provinces. Quelles sont les conséquences? Nous commençons par la province du Tanganyika. Des centaines de maisons écroulées, des écoles endommagées, le port public de Kalemie et plusieurs autres bâtisses inondées. Ce sont les dégâts causés par les fortes pluies de ce mardi dans la ville de Kalemie. D'après le président du mouvement citoyen parlement Debout sans tabou, les eaux de la rivière Loubouyé et Kalemie ont débordé. Le gouvernement provincial s'organise pour apporter une assistance aux sinistrés. Écoute le témoignage de Nathan Mugisho, président du mouvement citoyen parlement Debout sans tabou, au micro de Paulin Munanga.
Une école Tupendane dans la commune Kalemie dont le bâtiment a été attaqué. Une autre école Maito dans la commune de Kalemie a été aussi attaquée par les eaux. Des centaines de maisons écroulées par les eaux dans toutes les trois communes de la ville de Kalemie. Les deux rivières dont Loubouyé et Kalemie sont deux rivières qui ont causé des dégâts énormes parce que ces rivières remplies de sable et que le curage n'a pas été fait depuis des temps, et ces rivières sont devenus aussi des poubelles où les populations jettent beaucoup d'immondices, beaucoup de déchets qui ne parviennent pas à descendre jusqu'au lac. Et que ce sont ces eaux-là qui ont causé d'énormes dégâts. Vous avez des centaines de familles qui ne savent plus vivre dans leur maison parce qu'inondées et qui ont été amenés premièrement au stade JKK, Joseph Kabila Kabangé, où ils étaient installés, et puis après, le gouvernement provincial a pris la décision de les amener à l'école de la police où ces familles sont gardées.
Cette situation s'évite également à Kinshasa, mais sous d'autres facettes, à l'instar des habitants du quartier Mbiza Delvo, dans la commune de Ngaliema, qui éprouvent d'énormes difficultés pour joindre le centre-ville depuis quelques mois, à la suite d'une érosion qui se développe sur l'avenue Lalou, coupant ainsi la principale voie de sortie vers la route Matadi. Se déplacer d'un coin à un autre devient un casse-tête pour plusieurs personnes, dont les élèves vivant dans cette partie de la capitale. Ils craignent la résurgence des maladies hydriques en cette période où la tuyauterie de la régie des Zoé Coupé. Plotin Mbenga décrit le calvaire de ses familles dans ce reportage.
La désolation continue d'habiter plusieurs ménages dans ces coins de la ville. Des maisons complètement détruites, des câbles électriques engloutis. La traversée des passagers est désormais assurée par des petits tunnels créés autour du ravin.
Le passage ne fût-ce que pour les piétons. Il n'y en a plus. Il y a ceux qui ont des véhicules un peu de l'autre côté là-bas, qui ne savent plus remonter vers la route Matadi. Les enfants qui partaient seuls à l'école, nous sommes obligés de les accompagner.
Il faut désormais parcourir des longues distances pour s'approvisionner en eau, c'est plein cet habitant.
Il y a des magasins qui étaient ici, qui sont endommagés. Les gens ont perdu leurs histoires et nous avons l'inquiétude que s'ils n'interviennent pas rapidement, cette érosion peut avancer jusqu'à de ce côté-là.
La descente effectuée par une délégation du gouvernement, conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a réconforté ses familles, mais il faudra passer aux actes, disent-elles.
Nous sommes envoyés par le président de la République et la première ministre. Ils ont appris ce qui s'est passé dans ces quartiers et nous ont chargés d'effectuer une descente pour prendre des dispositions depuis hier. Nos équipes sont sur le terrain en train de mener des études.
Les travaux de remblayage seront lancés dans les prochains jours, annoncé le gouvernement central.
Autre réalité dans la capitale, lutte contre les marchés pirates à Kinshasa, le gouverneur de la ville fait entendre sa voix. Il a fait évaluer hier tous les étals et autres produits exposés le long de l'avenue Kassavubo en construction et aux environs du marché central. Cette route en réhabilitation est déjà envahie par des marchands, ce qui rend difficile les travaux en cours. Alors que son bétonnage se poursuit, les caniveaux sont déjà bouchés par des déchets et sachets venant de différents commerçants, des différents commerçants plutôt et acheteurs. Cette opération d'évacuation d'étal s'est poursuivie sur les avenues Roi Kading et Itaga. Elle devait s'étendre sur tout Kinshasa, d'après des sources de l'hôtel de ville. Le gouverneur rappelle à cette occasion l'interdiction de toute occupation des emprises publiques à des fins commerciales. Il promet aussi des sanctions. Notez que plusieurs opérations d'éradication des marchés pirates ont déjà été menées dans le passé, mais le phénomène persiste.
Actualité internationale.
La demande de cobalt a connu une augmentation depuis le début de 2025. C'est une hausse de 11% selon l'Institut de cobalt qui indique que les besoins pourraient se situer autour de 227 000 tonnes cette année. L'an dernier, la demande de cet élément métallique naturel se situait autour de 4%. Dans un monde en pleine transition énergétique, le cobalt très utilisé dans les batteries et dans les technologies vertes, la hausse de la demande serait directement liée à l'accélération des ventes des véhicules électriques. L'autre facteur mis en cause est la suspension pour 4 mois de l'exportation de cobalt décidée en février par le gouvernement de la République démocratique du Congo. La RDC fournit les 2/3 de la demande mondiale.
L'invité.
La province du Kasaï oriental n'a pas connu d'épidémie de rougeole l'année dernière, cependant quelques cas isolés ont été enregistrés de part et d'autre qui ne constituent pas une épidémie. Docteur Jean-Pierre Soumba, médecin chargé de la maladie dans la province du Kasaï oriental, s'entretient ce sujet avec Esther Dalafina. Il est notre invité.
Bonjour docteur Jean-Pierre Soumba. Nous venons d'apprendre que la province du Kasaï oriental n'a pas connu de cas d'épidémie de rougeole l'année dernière. Est-ce que vous confirmez cela et comment cela se justifie?
Merci beaucoup madame pour cette question. Il est vrai que la province du Kasaï oriental n'a pas connu une épidémie de rougeole pour l'année passée. Vous le savez que c'est une maladie qui en fait nous fait très mal au niveau de la province et que c'est une maladie que quand ça arrive, ça nous prend beaucoup d'enfants. Mais heureusement pour l'année 2014, l'année qui s'est écoulée, cette province, la province du Kasaï oriental, n'a pas connu cette épidémie. Bien sûr, vous demanderez pourquoi. C'est parce que normalement, il y a la surveillance qui marche au niveau de la province. On est presque sur tout cas qui est en fait déclaré au niveau de la province pour les investigations, pour l'analyse et pour la prise en charge des cas tout autour. Ce qui fait que nous avons été protégés et nous n'avons pas connu de cas de rougeole comme épidémie au niveau de la province du Kasaï oriental.
Est-ce que nous pouvons savoir les stratégies mises en place pour que cette épidémie ne puisse pas refaire surface dans la province?
Nous avons misé beaucoup plus sur la prévention. La prévention consiste d'abord à la vaccination de tous les enfants. Les campagnes sont passées et puis on est passé avec des campagnes de routine au niveau des zones de santé et on a vacciné presque tous les enfants qui s'étaient présentés pour cette vaccination-là. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons des stratégies qui font que dès qu'il y a une suspicion d'un cas parlant de rougeole, on ne reste pas main croisée. On ne s'arrête pas seulement à ça. Mais le cas est investigué d'abord par la zone de santé qui l'a rapporté et même le prélèvement réalisé pour envoyer à Kinshasa et avoir des confirmations sur ces cas. Dans l'entretemps, pendant que les examens sont au niveau de Kinshasa pour confirmer ou infirmer, l'équipe est sur place pour voir est-ce qu'il y a deux cas qui présenteraient des signes analogues et on prend en charge tous ces cas-là pour éviter que la maladie ne puisse avoir une ampleur assez grave au niveau de la province.
Il semble que pour la rougeole, il faut aussi vacciner les enfants chaque 3 ans. Est-ce que cela va être respecté?
Oui, le programme de vaccination, c'est un programme qui en fait actuellement fait partie des grands problèmes qui sont portés par le gouvernement du pays. Avant, on n'avait de vaccin que le vaccin qui venait de partenaires. Mais maintenant, le gouvernement supporte, achète le vaccin et donne le moyen aussi à différentes structures pour que cela soit réalisé. Je crois qu'avec la prise en charge de ces choses par le gouvernement et avec toujours l'appui habituel de nos partenaires, le programme pourra être bien respecté et accompli dans le temps.
Et par rapport à la conservation même de vaccins, qui arrive chez nous. Nous avons connu presque 2 mois de manque d'énergie électrique. Comment cela peut être bien conservé?
C'est assez dommage parce que ça nous cause des problèmes surtout au niveau de grands endroits comme à l'antenne PEV, mais aussi au niveau de la coordination PEV où il y a les entrepôts de vaccins. Mais dans les zones de santé, le problème est beaucoup plus facilité parce que nous utilisons le soleil comme source d'énergie pour les réfrigérateurs que nous avons au niveau de toutes les zones de santé. Là, le problème ne se pose pas parce que nous avons le soleil chaque jour et le matériel de chaîne de froid à ce niveau-là reste fonctionnel.
Et par rapport à l'acheminement même des vaccins dans les zones de santé qui sont loin de la ville de Mbujimayi, est-ce que ces vaccins-là sont aussi protégés d'une manière qui respecte les normes?
Si. D'ailleurs, il y a moins de 2 jours, le vaccin a été ramené au niveau des zones de santé éloignées et les conditions optimales sont prises pour que ces vaccins arrivent dans les conditions qu'il faut au niveau des zones de santé. Donc c'est respecter vraiment nos amis de l'antenne qui distribuent ces vaccins dans les différentes zones de santé, tiennent compte de tout ce qu'il faut pour que les vaccins arrivent dans de bonnes conditions.
Merci beaucoup docteur.
Merci.
Ce journal a été préparé par Judmister Bilanda, Pelekipe Lamondo et Élisée Chikota aussi. Concourir à la préparation de cette édition, Jean Cossier a assuré la prise de son et la mise en onde de Billy Van Loutmba. Vous la présente. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir été des nôtres.